Vivre la joie chrétienne à l'école de Thérèse.
Premier enseignement.
Nous allons donc vivre cette retraite en essayant de nous mettre à l'école de la petite Thérèse pour renouveler notre joie chrétienne. Je vais consacrer un certain nombre d'instructions à vous parler de ce que Thérèse appelait sa petite voix. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Thérèse a découvert un certain nombre de vérités, a redécouvert dans l'Évangile à quel point Dieu nous aimait et à quel point nous devions avoir vis-à-vis de lui une mentalité d'enfant. Et c'est pour cela que, en 1907, Mère Agnès, la seconde maman de Thérèse, qui était devenue prieure du Carmel de Lisieux, Mère Agnès a lancé l'expression « voix d'enfance spirituelle ». Thérèse n'a jamais employé cette expression. Elle parlait de petite voix. Mais je pense que Mère Agnès a eu raison d'employer cette expression car Thérèse aimait beaucoup le passage de l'Évangile, Matthieu 18, où Jésus nous dit « Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et les papes successifs qui ont parlé de Thérèse, notamment Benoît XV qui a déclaré l'héroïcité des vertus de Thérèse, grâce à quoi on a pu appeler Thérèse vénérable, les papes successifs ont repris cette expression d'enfance spirituelle, et je pense qu'ils ont eu raison, à condition de ne pas faire les contresens dont je vais parler dans un instant. Je vous signale au passage que les ecclésiastiques qui ont instruit le procès de canonisation de Thérèse ont dit, aux religieuses qui témoignaient, sous la foi du serment, ne parlez surtout pas trop de petites voix. Vous comprenez, l'Église n'aime pas entendre dire qu'une religieuse de 23 ans a découvert quelque chose de nouveau du point de vue spirituel. Dites que Thérèse était merveilleuse du point de vue de la charité fraternelle, dites qu'elle était très patiente, qu'elle était très pieuse, mais ne parlez surtout pas de petite voix, ça va faire avorter le procès. Avec beaucoup de sincérité, les religieuses, et notamment les propres sœurs de Thérèse, ont dit « Écoutez, ce n'est pas nous qui avons désiré un procès de canonisation. Thérèse parlait beaucoup de petites voix au noviciat, on en parlera. » Une preuve de plus, parmi d'autres, que les carmélites ont été très sincères dans l'histoire. Bon, si j'avais le temps, je vous expliquerai à quel point nul n'est prophète dans son pays. Les religieuses du Carmel de Lisieux ont été les dernières à croire à l'éventualité d'une canonisation de Thérèse. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Même chose pour l'évêque. L'évêque de Lisieux a tout fait pour faire avorter le procès. Il ne voulait pas avoir l'air ridicule aux yeux du Vatican en favorisant la canonisation d'une petite carmélite de son diocèse. C'est le peuple tout entier, c'est le peuple de Dieu tout entier qui, à l'extérieur de la France, a réclamé la canonisation de Thérèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire petite voix? Qu'est-ce que ça veut dire être enfant devant Dieu? Eh bien, il faut d'abord éviter un certain nombre de contresens et qui sont importants pour supprimer vos allergies éventuelles vis-à-vis de Thérèse. Ça ne veut certainement pas dire rester bébé, puisque Thérèse considère que la grande grâce de sa vie, c'est Noël 1886, quand elle a été libérée, comme elle dit, des langes de l'enfance. Car Thérèse de Lisieux a été une fille spécialement retardée du point de vue affectif. Pendant des années, elle pleurnichait pour un rien. Quand elle n'avait pas, à la fin du mois, la médaille qui récompensait les élèves qui avaient eu régulièrement la moyenne en calcul et en orthographe, qui n'étaient pas les matières fortes de Thérèse, elle pleurnichait très longtemps. « Qu'est-ce qu'il va dire, papa, au buissonnet, ma sœur, j'ai pas la médaille. » Mais Thérèse, vous ne pouvez pas la voir chaque mois. « Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire, papa ?» Imaginez la tête de ces religieuses quand elles ont appris qu'on allait canoniser cette mioche. Alors on va canoniser toutes nos anciennes élèves. Hein? Donc Thérèse se rendait compte qu'elle ne pourrait certainement pas entrer au Carmel avec cette mentalité, avec ces pleurnicheries interminables. Et elle suppliait le Seigneur de l'en délivrer. Et elle n'y arrivait pas. Il lui a fallu 10 ans pour s'en sortir. Depuis la mort de sa maman, à l'âge de 4 ans et demi, jusqu'à ses 14 ans, elle pleurnichait vraiment d'une façon terrible. Et en la nuit de Noël, le déclic s'est produit. On revenait de la messe de minuit, le papa peut-être un peu fatigué par les exercices de la messe de minuit, d'une façon un peu sèche devant la cheminée de la cuisine, en voyant les cadeaux préparés près des souliers. Thérèse est suffisamment grande pour qu'on ne fasse plus des choses comme cela, j'espère bien que c'est la dernière année. Entre parenthèses, le papa aurait pu s'apercevoir plus vite que sa petite dernière était devenue une grande fille, grande et forte, et qu'il ne fallait plus la traiter comme un bébé. Il y a là d'ailleurs une merveilleuse coïncidence entre la nature et la grâce. C'est au moment où le papa réalise enfin que sa fille est une grande et qu'il ne faut plus la traiter comme un bébé, que Thérèse ne va plus être bébé. Thérèse, qui a entendu la réflexion de son père en haut de l'escalier, se met à pleurer, car une réflexion comme ça de son petit papa chéri suffisait à la faire fondre en larmes. Mais elle se dit, c'est vrai, papa a raison, je ne suis plus une gamine. Et puis tout à l'heure j'ai communié, j'ai demandé une fois de plus à Jésus de me rendre forte. Elle enlève son chapeau, elle enlève son manteau, descend les escaliers et défait ses cadeaux comme si le papa n'avait rien dit. Thérèse n'est plus la même, disent les sœurs. Et non, le travail que je n'avais pas pu faire en 10 ans, le Seigneur le fit en un instant, se contentant de ma bonne volonté. Et Thérèse comprend pour le reste de sa vie que lorsque le Seigneur veut agir, il se moque du temps, il fait un miracle. Donc, enfant, pour Thérèse, c'est tout sauf être bébé, puisque justement, la grande grâce de sa vie, la grande date de sa vie, n'est pas l'entrée au Carmel en avril 88, mais Noël 86, la date de sa conversion, comme elle dit. Deuxième contresens, plus fréquent. Être enfant devant Dieu, ça veut dire aller à Dieu avec son cœur et non pas avec sa tête. Faut surtout pas être une intellectuelle. L'évangile d'hier, je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Il faudrait aller à Dieu sans réfléchir. Ce n'est certainement ni l'évangile, ni Thérèse. Ce n'est pas l'évangile, car vous savez combien Jésus multiplie les miracles pour montrer qui il est. Jésus n'a jamais reproché à ses apôtres de faire preuve d'esprit critique. C'est Dieu lui-même, c'est le Verbe lui-même qui suscite dans le cœur des hommes ce besoin d'y voir clair, ce besoin de réfléchir. Et Thérèse, elle-même, est une tête chercheuse. Le verbe qu'elle emploie le plus dans ses manuscrits, c'est le verbe comprendre. Le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre. Elle est bien plus tête chercheuse qu'Élisabeth de la Trinité. Dans un premier temps, Élisabeth, disciple de Thérèse, paraît plus théologienne parce qu'elle emploie le vocabulaire de son père spirituel, le père Vallée, dominicain. Mais dans un deuxième temps, on s'aperçoit que Thérèse mérite d'être docteur de l'Église, tellement sous un langage enfantin, elle se pose des problèmes et essaye de les résoudre. D'ailleurs, vous savez que l'Église n'a jamais accepté ce qu'on appelle le fidéisme, suivant lequel on pourrait aller à Dieu sans sa tête. On va, comme dirait Pascal, on va à Dieu avec sa tête et avec son cœur. Soumission et usage de la raison, c'est l'une des liasses importantes des pensées de Pascal. Bon. Troisième contresens, encore plus dangereux, et qui a écarté de Thérèse, on peut dire des générations de frères, de prêtres et de religieuses, ça serait l'illusion que Thérèse nous invite à redevenir innocents comme un enfant. On présente le beau visage de Thérèse enfant, et on dit, voyez la sainteté, c'est d'être innocent et transparent comme un enfant. Et alors on confond Thérèse de Lisieux et Victor Hugo, et le romantisme. Thérèse ne nous invite absolument pas à redevenir innocent, car nous verrons demain à quel point elle a le sens de la miséricorde de Dieu. Elle sait qu'elle est pécheresse. Seulement, ce n'est pas évident. Je pense à telle ou telle religieuse qui est maintenant une fervente disciple de Thérèse et qui a fermé immédiatement l'histoire d'une âme à l'âge de 14 ans quand elle allude à l'introduction faite par Mère Agnès, l'introduction de cette époque-là, que Thérèse était une fille exceptionnellement généreuse qui n'avait rien refusé à Dieu depuis l'âge de 3 ans. Et c'est vrai que Thérèse a confié à sa cousine, la fille du pharmacien Guérin, elle a confié à sa cousine quelques mois avant de mourir que depuis l'âge de 3 ans, il lui semblait qu'elle n'avait rien refusé à Dieu. Imaginez ce que cela peut produire dans la mentalité d'un adolescent ou d'une adolescente. Thérèse n'est pas une sainte pour moi. Elle est trop parfaite, elle est trop généreuse. Moi, j'ai trop refusé de choses à Dieu depuis l'âge de 3 ans. Alors ça, c'est terrible, parce qu'on fait un contresens complet sur Thérèse. Nous verrons demain à quel point elle a le sens d'appartenir à la race des pauvres pécheurs. C'est le grand paradoxe de Thérèse. La grâce de Lisieux, c'est d'aider les gens à se réconcilier avec leur condition de pécheur. Bon, donc il ne faut surtout pas confondre innocence et esprit d'enfance. Thérèse n'emploie jamais le mot innocence. Et nous verrons que les saints innocents, pour elle, c'est justement ceux qui ont volé le paradis sans l'avoir mérité.